Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Dernière émission dans Des clés pour vivre avec vous, Véronique Garnier-Bovier, ravie de vous retrouver.
Oui, moi aussi, bonjour.
Merci, vous avez tenu bon et vous avez accepté aussi la suite pour faire cette deuxième série quelques mois plus tard, après cette rencontre à Lourdes en novembre 2018, avec quelques victimes abusées sexuellement, comme vous avez été abusée il y a plus de 40 ans, à l'âge de 13 ans, par un prêtre. Cette épreuve reste encore bien inscrite dans votre corps, dans votre mémoire, dans votre chair. Est-ce qu'elle est traversée un petit peu, ce chemin commence à voir un peu cette lumière et cette résurrection dans votre vie de femme tout court, d'épouse, de mère? Parce que vous êtes mariée aussi, hein, vous êtes maman. Hein.
Oui. En effet, si je relis un peu ma vie, mon histoire, je peux m'apercevoir que j'ai déjà traversé pas mal d'étapes, on va dire, mais le chemin est long. Donc je ne peux pas dire que je suis arrivée au bout, bien sûr, mais j'ai déjà traversé pas mal de choses en commençant par consentir à ce qui m'est arrivé. J'ai dû accepter ce qui m'est arrivé et puis j'ai dû peu à peu apprendre à vivre avec, à faire avec et peu à peu découvrir aussi, après avoir découvert le négatif de ce qui m'est arrivé, j'ai pu peu à peu découvrir aussi le positif et accepter que, en effet, si je n'avais pas vécu ça enfant, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. J'ai dû faire le deuil, en quelque sorte, de l'enfant, de la personne que j'aurais pu être si je n'avais pas vécu ça. Et après avoir fait le deuil de la personne que je n'ai pas pu être, j'accueille petit à petit, de mieux en mieux, la personne que je suis.
Alors la personne que vous êtes et que vous devenez est devenue une personne publique. Est-ce que ça accélère aussi le processus de réparation, de guérison, mais de traversée? Alors, ce changement aussi de passer à une femme publique modifie votre cheminement intérieur. Alors, ça, vous êtes posé la question?
Non, pas du tout.
En tout cas, vous pouvez vous poser la question et y réfléchir.
Ça m'étonne.
La prochaine fois, vous répondrez.
D'accord. En tout cas, je suis étonnée de ce qui m'arrive. On peut dire comme ça. Je suis étonnée.
Vous êtes surprise.
On m'a téléphoné il y a pas très longtemps du Canada. Et on m'a contactée pour participer à un livre collectif. Et vraiment, je dis, comment c'est possible? Je suis très étonnée. Mais ce qui est pour moi, c'est clairement, ce qui participe à la réparation, c'est qu'on est sorti du silence et qu'on commence un dialogue et qu'on commence un chemin. Alors je voudrais préciser qu'il y a un chemin aussi de commencer avec d'autres personnes dans l'Église qui sont les religieux, par l'intermédiaire de la COREF, dont Véronique Margron est la présidente. C'est donc un peu l'équivalent de la Conférence des évêques de France, mais du côté des religieux, religieuses. Et là, on a aussi un travail très intéressant, un travail avec, un travail ensemble. Et moi, je pense vraiment que c'est ce cheminement ensemble avec des évêques, avec des religieux, mais aussi je fais partie d'un groupe de réflexion théologique avec des théologiens et des victimes. C'est ce travail ensemble qui est chemin d'Emmaüs. Et plus on va être nombreux à cheminer ensemble, et plus on va être dans cette réparation peut-être de l'Église qui n'est pas un but en soi, comme je disais, mais dans cette traversée de l'épreuve ensemble. En fait, cette épreuve que moi-même je traverse comme je peux, et toutes les victimes on traverse comme on peut, on pourrait presque faire le parallèle avec ce que l'Église vit. Alors on parle d'une crise, peut-être on pourrait parler d'une épreuve, parce que ça donne une autre dimension et peut-être réfléchir comment l'Église pourrait traverser cette épreuve. Et d'après moi, une des bonnes pistes, c'est qu'on traverse ensemble les personnes qui ont été victimes et les personnes, les autres, on va dire. Et non pas à s'opposer, opposer notre souffrance les uns en face des autres. Non, plutôt mettre ensemble, peut-être en commun, cette souffrance, prendre un chemin commun qui sera un chemin de guérison, c'est certain. Et peut-être que tout ce chemin d'acceptation que j'ai dû faire consentir à mon histoire, l'Église elle-même peut faire ce chemin de consentir à son histoire. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'Église ? Eh bien oui, ce qui lui arrive, c'est qu'il y a quelque chose dans l'Église, et peut-être dans la structure même de l'Église, qui a permis, qui a accepté, qui a caché tous ces abus de pouvoir, de conscience, abus spirituels et jusqu'à des abus sexuels. Et commencer par la première étape, ça va être de consentir à l'histoire de l'Église. Et comment, qu'est-ce qu'on fait après ? Comment est-ce que l'Église reconnaît l'importance et reconnaît sa responsabilité ?
Au fond, aussi... vous posez la question, comment sortir de cette crise ?
Alors avant d'en sortir, il faut la traverser.
Eh oui. Ah,
on va pas en sortir de suite.
Alors
hein.
On a bien entendu cette semaine que pour traverser cette crise, hein, donc qui est une épreuve, on l'entend, je l'entends, il faut dialoguer et se rencontrer. Ce que fait l'Église,
oui,
hein.
Oui.
C'est
là
peut-être le début d'une première petite victoire.
Oui, alors
rencontre, écoute entre les personnes abusées, victimes. Mmh. Et les membres du clergé.
Alors, je parle de chemin d'Emmaüs, mais peut-être qu'avant le chemin d'Emmaüs, on va devoir faire un chemin pascal, c'est-à-dire un chemin où on va d'abord mourir tous ensemble.
Oui, ce chemin de croix aussi.
Voilà,
hein.
Mourir ensemble parce qu'on croit qu'on va ressusciter ensemble. Je pense qu'on ne va pas le faire les uns sans les autres. Ça, c'est vraiment mon intime conviction. Et je pense que pour ça, il faut reconnaître le Christ crucifié par l'Église. Il faut en accepter la douleur. Ça fait mal de reconnaître qu'on a fauté, qu'on est responsable de tant de douleur. Et aussi en accepter le coût. Ça va coûter, ça coûte cher, pas seulement en argent, même si les évêques nous aident un peu au niveau financier. Non, ça coûte en humiliation. Mais après avoir accepté tout ça, peut-être on va recevoir la grâce, une grâce d'en comprendre le sens. Mais quel sens peut avoir cette épreuve pour l'Église ? Qu'est-ce que Dieu veut bien dire à l'Église à travers ça ? Qu'est-ce que l'Église a à entendre à travers ça ? Quel chemin de vie est proposé à l'Église si elle accepte de faire la vérité ? Pour moi, c'est un chemin pascal, donc de mort et de résurrection, et un chemin d'Emmaüs qui suit. Et on peut se poser la question, mais quel sera le visage de l'Église si elle met les plus pauvres au cœur ? Si même, comment peut-elle mettre les victimes et les plus pauvres, les plus petits, les enfants au cœur ? Eh bien, d'après moi, c'est en se déplaçant, son centre de gravité, son cœur, en le déplaçant à la périphérie, parce qu'aujourd'hui, les victimes...
Ou tout simplement, c'est justement, peut-être pas un déplacement, mais c'est un cœur de l'Église qui doit s'ouvrir pour justement accueillir cette périphérie. Non,
non, non,
vous n'êtes
non,
pas
je,
d'accord.
Non, je crois que c'est vraiment un déplacement. C'est un peu comme si aujourd'hui, je vais dire un peu comme ce qui m'habite, hein, le cœur de l'Église n'est plus vraiment le Christ crucifié, mais le cœur de l'Église aujourd'hui, c'est l'Église elle-même. Voilà, d'après moi. Et si l'Église se déplace, si la plupart font ce mouvement d'aller aux périphéries, le pape François nous y invite.
Oui,
alors
on
pense qu'on va évangéliser les gens de la périphérie pour leur dire qu'ils sont aimés de Dieu. Mais je crois que là, on se trompe. Je crois que si on va à la périphérie, on va rencontrer le Christ crucifié qu'on a mis un peu de côté. Et alors, si tout le monde fait ça, eh bien... Au fond, l'Église va se recentrer autour des plus pauvres, autour des victimes, autour du Christ crucifié qui reprendra
donc,
sa place.
L'Église peut-être a oublié aussi les personnes fragiles, malades, un peu cabossées par la vie.
Oui, pas
au
seul,
fond,
oui.
Ce qu'on peut entendre, c'est qu'elle aurait oublié son centre d'intérêt, sa lettre première de mission, c'est l'accueil des plus pauvres et des plus fragiles.
Mais peut-être elle s'est laissée prendre par son fonctionnement.
Par son carriérisme.
Les hommes, même le pouvoir, c'est humain.
Oui, tout simplement.
Voilà, je ne sais pas exactement. Mais je pense que si ce déplacement se fait, ça sera une bénédiction pour la famille, Église. Et moi, j'ai eu une fois cette parole dans une retraite qui parlait de bénédiction, qu'à travers ce mal qui a été fait dans l'Église et par l'Église, Dieu, il veut faire du bien. Il veut en sortir un bien. Et moi, j'attends cette bénédiction. Peut-être j'y travaille aussi.
Vous y travaillez et surtout vous l'attendez, vous y croyez. Permettez-moi,
je l'espère.
Je vous ai reçu il y a plusieurs mois pour une première série, en octobre 2018, dans ce lieu qui était un lieu pour vous très compliqué, de Lourdes, 40 ans après les faits pour vous, abusé par un prêtre à l'âge de 13 ans. Je vous reçois dans la Ville Rose, dans ces studios de Toulouse. Donc nous avons eu un déplacement toutes les deux. Oui. Je rencontre une femme qui fait un chemin, mais un chemin de vie et de résurrection, et qui croit à cette reconstruction de ce grand corps. Vous y croyez ? C'est le témoignage que vous me rendez.
Je l'espère, c'est certain. Et ce que j'espère, c'est que beaucoup d'autres personnes vont s'engager sur ce même chemin.
Merci. On se dit à bientôt.
Oui.
Ce n'est qu'un au revoir, voilà. Véronique Garnier-Bovier. Peut-être à Lourdes.
Peut-être,
peut-être à Lourdes.
Merci beaucoup.
Car je me déplace aussi sur Lourdes.
Oui, merci.
Au revoir.
À bientôt.
Merci.